Une mère idéale, est-ce que ça existe vraiment ? Au fil de ma carrière de formateur, je me suis rendu compte que une des blessures les plus profondes, une des déceptions les plus profondes partagées par une majorité de personnes que j'accompagnais dans mes séminaires de formation, c'était le fait qu'ils n'avaient pas eu la mère idéale dont ils auraient pu rêver. Et c'est vrai que quand on y réfléchit un peu, qu'on soit conscient ou inconscient de cela, nous avons tous manqué de cette mère idéale dont nous aurions pu rêver et dont on nous parle dans les contes de fées. C'est Léon Tolstoï qui disait « Il n'y a rien de plus beau que la douceur d'une mère ». Et Tolstoï, lui, il avait la conception de la mère idéale comme étant une femme douce. Mais est-ce que vraiment une mère douce, c'est tout ce dont nous avions besoin? Et c'est vrai que quand on regarde, je vous ai parlé à l'instant des contes de fées, quand on regarde les archétypes de la mère qui circulent dans les contes de fées, eh bien, on se rend compte en fait que nous vivons tous, nous les êtres humains, et de façon simultanée avec la même personne, différentes images de la mère, différents types de relations avec la mère qui vont être traduites dans les contes de fées par différentes images archétypales ou archétypiques. Les deux mots existent au niveau du dictionnaire. Alors, vous avez évidemment la première image archétypale, celle à laquelle on pense tous spontanément, qui est la mère complètement dédiée, complètement dévouée à ses enfants, qui passe tout son temps à s'occuper des besoins de l'enfant. C'est typiquement dans les contes de fées, la mère qui est présente, qui ne fait rien, donc elle n'a pas d'activité professionnelle. Elle est assez soumise, elle est assez effacée comme femme. Elle est aux côtés de son mari et elle est là au service de son enfant. Et quand son enfant dort, eh bien, elle va s'adonner à des activités de reprisage ou de couture. C'est tout. Et ça, c'est une image archétypale de la mère. Donc, c'est celle qui est complètement dévouée et complètement disponible pour les besoins de l'enfant. Mais à côté de ça, on a d'autres images archétypales. Par exemple, nous avons l'image archétypale de la marâtre, de la belle-mère, de la sorcière. Souvenez-vous du conte de fées Blanche-Neige, où la belle-mère va être tellement jalouse de Blanche-Neige qu'elle va essayer de la tuer. Elle va l'empoisonner avec différentes stratégies. Il y a la belle-mère aussi de Cendrillon, qui va maltraiter Cendrillon, qui va la traiter moins que rien, et moins bien que les pires des servantes, alors que par ailleurs, elle favorise ses propres filles, etc., etc. Donc ça, mais ça aussi, c'est une image qui traîne dans nos inconscients, et nous avons tous à l'intérieur de nous, pas seulement ceux qui ont eu vraiment des mères qui étaient insupportables et difficiles à vivre, nous avons tous dans notre inconscient cette image de la mère qui est méchante, parce qu'à certains moments de notre vie, notre mère n'a pas répondu à nos besoins. Donc, on est dans l'excès inverse, si vous voulez. Il y a d'un côté la mère qui est 100% disponible pour les besoins de l'enfant et puis de l'autre côté, la mère qui est 0% disponible pour les besoins de l'enfant. Mais nous avons tous connu des frustrations où à un moment donné, on aurait voulu que maman nous prenne dans les bras et elle n'était pas disponible. On aurait voulu que maman nous donne un morceau de chocolat supplémentaire et elle n'a pas voulu. Et donc là, on en voulait à mort à notre maman. C'est-à-dire que ces deux images archétypales sont présentes. Vous avez une troisième image archétypale dans les contes de fées qui est l'image de la bonne fée, de la magicienne, celle qui s'est penchée sur le berceau de l'enfant et qui lui a transmis des talents, qui lui a transmis des dons. Et ça aussi, c'est une expérience que probablement un certain nombre d'entre vous ont vécu avec leur propre mère. C'est-à-dire d'avoir une mère qui les a initiés au goût de la littérature, au goût de la musique, au goût de l'art, etc. Donc une mère qui a pris le temps de transmettre une passion ou de transmettre un talent. Et on se rend compte que très souvent, même y compris chez les sportifs de haut niveau, ce sont les mères qui ont été présentes dans les premières années d'évolution de sportifs qui sont devenus des références mondiales au niveau de leur discipline. Donc ça, c'est le troisième archétype, c'est l'archétype de la bonne fée, celle qui va donner des talents. Mais c'est pas tout, vous avez encore l'archétype de la geôlière. Donc autant la bonne fée va donner tous les potentiels et toutes les libertés, de nouveau, on prend l'archétype inverse, c'est la geôlière, c'est celle qui va emprisonner ses enfants. Hein, et il y a des contes de fées qui parlent de mères qui ne vont pas permettre à leurs enfants d'aller dans le monde extérieur. Pour plein de raisons, mais la raison principale évidemment sur le plan psychique, c'est « je ne veux pas perdre le rôle ». Que je joue fondamentalement vis-à-vis de mes enfants. Je ne veux pas qu'on ait plus besoin de moi. J'ai tellement besoin que l'on ait besoin de moi. Et cela, c'est aussi une caractéristique d'énormément de mères, que j'ai souligné d'ailleurs dans la vidéo « Je suis parent à durée déterminée » où je disais qu'effectivement, à un moment donné, pour les parents, il est temps d'arrêter notre rôle, il est temps de mettre un terme à notre rôle de parent parce que il est important qu'à un moment donné, nos enfants prennent leur propre envol et prennent leur propre autonomie. Mais il y a des mères, et c'est beaucoup plus du côté des mères que des pères d'ailleurs, qui refusent de voir leur enfant partir parce qu'elles se sentiraient complètement inutiles. Et ça se retrouve aussi dans certains contes de fées, dans certaines images archétypales. C'est la mère qui enferme ses enfants dans la cave, dans le grenier, dans le cagibi sous l'escalier, etc., etc. On retrouve même cette image, je pense, dans un des Harry Potter, si mes souvenirs sont bons. Bien, vous avez encore peut-être la mère révoltée, la mère tigresse, la mère qui va, au péril de sa vie, défendre l'intégrité de son enfant. Hein, et ça, ici au Québec, on sait très très bien que si d'aventure on s'introduit sur le territoire d'une maman ours alors que la maman ours est en train de nourrir son petit, je peux vous dire que vous allez passer un très très mauvais quart d'heure parce que la maman ours va charger, va foncer. Et c'est vrai que beaucoup de femelles dans le monde animal et surtout dans le monde des mammifères vont risquer leur vie, mais dans le monde humain aussi, certaines mères vont être prêtes à risquer leur vie, à mettre leur vie en danger pour protéger leur enfant, pour vraiment faire un rempart avec leurs bras en mettant leur enfant contre leur sein. C'est aussi une image archétypale. Mais malgré ces... Bon, je viens de vous citer 5 images archétypales de mères et je pourrais encore continuer avec d'autres mères. Je pense au mythe grec aussi, le mythe de Déméter, etc., etc. Enfin bon, Déméter qui est aussi quelque part une mère contrôlante qui ne voulait absolument pas que sa fille Perséphone passe tout son temps avec Hadès, etc. Enfin bon, bref, je ne rentre pas dans tous les détails. Mais donc, nous avons plein d'images archétypales. Mais qu'est-ce que toutes ces images archétypales nous disent, c'est que la mère idéale n'existe pas. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de la journée, c'est que oui, nous sommes tous quelque part en manque de cette mère idéale dont nous aurions rêvé. Et le problème, à partir de là, c'est que on va se mettre dans des positions de frustration, des positions de victime, des positions d'attente, où nous allons passer le reste de notre vie à attendre que quelqu'un prenne le relais de notre mère ou carrément à passer notre vie à attendre que notre mère biologique ou celle en tout cas qui a pris soin de nous, qui nous a éduqués, finisse par réparer toute cette blessure de manque que nous portons en nous, à l'intérieur de nous, par rapport à la relation à la mère. Et ça, je l'ai vu aussi très très souvent dans mes séminaires, c'est que nous allons donc, en tant qu'être humain, projeter sur d'autres personnes les attentes que nous ne sommes pas parvenus à satisfaire avec notre mère biologique ou avec celle qui nous a éduqués. Hein, et très souvent, on retrouve ça dans les couples, par exemple. Dans le couple, on va projeter, hein, qu'on soit femme ou homme d'ailleurs, on va projeter sur notre partenaire de vie les attentes, et nous allons attendre de ce partenaire qu'il prenne soin de nous de la même façon que notre mère idéale aurait dû prendre soin de nous. Et ça, c'est terrible de rentrer dans une projection inconsciente comme ça, parce que ça veut dire que déjà, dans un premier temps, nous avons été frustrés parce qu'avec notre vraie mère ou celle qui nous a éduqués, nous n'avons pas reçu la satisfaction de nos besoins fondamentaux. Mais par la suite, lorsque nous devenons adultes, nous continuons à être dans cette même posture de l'enfant qui attend, sans rien dire, qu'on prenne soin de ses besoins. C'est d'ailleurs pas pour rien que j'ai écrit le livre « Prenez soin de vous, n'attendez pas que les autres le fassent ». Et ce qui était important, et je me suis battu avec mon éditeur d'ailleurs pour qu'il accepte de garder cette deuxième partie de phrase. Il voulait que mon livre s'appelle « Prenez soin de vous », mais je lui ai dit non, c'est « Prenez soin de vous, n'attendez plus hein, ». J'aurais pu même plus mettre « plus ».« N'attendez plus que les autres le fassent ». ».« N'attendez pas que les autres prennent soin de vous comme vous avez attendu lorsque vous étiez petit bébé, qu'on prenne soin de vous sans que vous ayez à dire quoi que ce soit. Bien. Donc, que ce soit dans la petite enfance, que ce soit dans l'âge adulte, toutes ces stratégies que nous mettons en place sont des stratégies perdantes. Ce sont des stratégies où tôt ou tard, nous allons être déçus. Ou tôt ou tard, nous allons rentrer dans des processus de contrôle, hyper contrôlants. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à pourquoi est-ce que dans le couple, à un moment donné, quand nous sommes frustrés de la relation, nous devenons hyper contrôlants. Nous devenons hyper contrôlantes. Pourquoi ? Eh bien, parce que si j'ai projeté sur mon partenaire de vie les attentes qu'il ou elle prenne soin de mes besoins narcissiques et que ce partenaire de vie ou cette partenaire de vie s'occupe de quelqu'un d'autre, ne fût-ce que de ses clients, ne fût-ce que de ses patients, ne fût-ce que de d'autres personnes, de ses enfants, de ses amis, etc., je vais chaque fois être hyper jaloux et de plus en plus jaloux parce que je serai insécurisé sur le fait que ce partenaire ne sera pas 100% disponible 100% du temps, comme dans les contes de fées, pour mes besoins, pour la satisfaction de mes besoins. Et c'est là que je deviens hyper contrôlant et de plus en plus contrôlant. T'étais où ? T'étais avec qui ? Ben, j'étais avec mes clients. Oui, mais c'était qui tes clients ? Écoute, je suis pris par la clause de confidentialité, je ne peux pas te dire, je veux le nom de tes clients, je suis jaloux. C'est-à-dire que vraiment, on est dans une impasse. Alors, comment sortir de cette impasse ? Eh bien, ce que je répète à longueur d'année à mes étudiants de l'Académie de la vie en mouvement, c'est apprenons à être une mère pour nous-mêmes. Apprenons à être celle que nous avons attendue à l'extérieur. Eh bien, n'attendons plus à l'extérieur et prenons la responsabilité de devenir une mère pour nos propres besoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement être une mère pour nos propres besoins ? Eh bien, pour moi, ça veut dire essentiellement quatre choses. Première chose, et vous allez voir que ça correspond effectivement à l'archétype de la mère idéale, mais cette fois-ci, ça devient possible parce que c'est nous qui allons jouer ce rôle vis-à-vis de nous-mêmes. D'accord ? Bien. Alors, première chose qu'une mère idéale devrait faire vis-à-vis de nous, c'est d'écouter. Et c'est effectivement la première chose que nous pourrions faire si nous voulons être une mère pour nous, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous pour sentir qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de nos besoins physiques, ou nos besoins, au niveau de nos besoins psychologiques ou au niveau de nos besoins spirituels. Donc c'est la première chose, c'est écouter. Comme une bonne mère le ferait, où elle est capable d'écouter et même de reconnaître les pleurs de son enfant et de discerner. Parce que effectivement, ça c'est la deuxième chose que nous allons pouvoir faire en tant que mère pour nous-mêmes, c'est d'identifier la nature exacte des besoins qui sont en jeu lorsque nous ressentons les malaises que nous ressentons. Donc, ça va, vous voyez jusque présent ? Donc, la mère idéale, c'est celle qui va écouter les pleurs de l'enfant. Hein, elle va prêter l'oreille. Mais après, elle va être capable de reconnaître si c'est un pleur de peur, d'angoisse, un pleur de faim ou de soif, un pleur de « j'ai mouillé mes couches et je suis dans l'inconfort, il faut me changer », etc. etc. Les mères, certaines mères en tout cas, ou beaucoup de mères, sont capables de reconnaître la nature des pleurs et donc d'identifier, de discerner la nature du besoin qui est là derrière. Eh bien, c'est la même chose que nous allons faire vis-à-vis de nous. Mais avec le grand avantage qu'il va y avoir beaucoup moins d'interprétation parce que nous sommes branchés directement avec notre corps. Donc, nous savons beaucoup mieux que n'importe qui d'autre la nature du malaise que nous avons. Nous savons bien mieux que n'importe qui d'autre la nature des émotions que nous ressentons en lien avec des besoins psychologiques, des besoins relationnels qui sont non satisfaits. Nous sommes mieux placés que quiconque pour identifier le mal-être existentiel qui est présent et qui est en relation avec un besoin spirituel qui n'est pas satisfait. Donc, vous voyez que c'est pour ça qu'une mère idéale, ça n'existera jamais. Et donc, arrêtez d'attendre de la part de votre propre mère ou de la part de la personne sur qui vous avez projeté cette image de mère idéale. Arrêtez d'attendre que cette personne prenne soin de vos besoins. C'est impossible. C'est une mission impossible. C'est impossible de deviner à l'extérieur de quelqu'un quelle est la nature véritable, la nature exacte de ses besoins. On ne peut pas le deviner parce qu'on n'est pas dans le corps de l'autre. Vous êtes seul à pouvoir être une mère pour vous parce que vous êtes les seuls à être branchés sur vos ressentis. Ça, c'est la deuxième chose qui consiste à être une bonne mère pour vous. Troisième chose, c'est de nommer les besoins. Comme une mère le fait, quand une mère s'approche de l'enfant pour le prendre et pour le mettre au sein, la mère va dire « Tu as faim, mon chéri, tu as faim, mon bébé ?» C'est-à-dire que la mère est en train de nommer le besoin. « Oh, tu es mouillée, ma chérie, je vais te changer. » Ou « Tu as peur, tu es angoissée, tu as envie d'être cajolée, tu as envie d'être prise dans les bras. » C'est-à-dire que la mère nommait en mots, mettait des mots sur les besoins de l'enfant. Eh bien, réapprenez à mettre des mots sur vos besoins. C'est-à-dire, un, vous écoutez, deux, vous identifiez la nature du besoin, trois, vous mettez un mot. Et ça, c'est un apprentissage. C'est, si je me base sur mon expérience dans l'Académie de la vie en mouvement, je me rends compte que c'est un véritable apprentissage. C'est comme apprendre une langue étrangère dont on connaît tout le vocabulaire, mais qu'on n'a jamais pratiqué. Et donc, là, je vous encourage à réapprendre, à pratiquer le langage des besoins, à dire vos besoins en mots. Ça va? Troisième chose. Quatrième chose, c'est de veiller et de vérifier, une fois que vous avez nommé les besoins, de vérifier si les solutions que vous envisagez sont des solutions susceptibles de satisfaire les besoins qui sont en déséquilibre chez vous. Et là, vous êtes seul, de nouveau, à prendre cette responsabilité. Vous, évidemment, pour être une bonne mère, ça ne veut pas dire que vous devez faire tout seul. Si vous avez besoin d'amour, eh bien, dites que vous avez besoin d'amour, mais après, il y a quelqu'un d'autre qui va venir répondre à votre demande. Mais être responsable de vos besoins, c'est poser l'acte de faire la demande vis-à-vis de quelqu'un. Donc, en fait, la mère, la quatrième dimension de la mère idéale, d'être une mère pour soi, c'est de poser des actes, c'est de poser des demandes pour que les autres répondent à vos besoins. Mais qui va vérifier, qui a la responsabilité de vérifier si les besoins sont satisfaits ou ne sont pas satisfaits? C'est vous. Et il n'y aura jamais personne d'autre que vous qui pourra faire ce travail. C'est ça, être une mère pour soi. Et je voudrais terminer cette vidéo par une bonne nouvelle. C'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques années. Allez, je vais prendre un petit exemple très simple. Si je vis avec vous et je vous dis « Hey, d'ici ce soir, il va y avoir une surprise pour toi. » Bon, et puis vous passez toute la journée en disant « Ouais, il y a une surprise pour moi, il y a une surprise pour moi, qu'est-ce que ça va être, etc. Je suis très impatient de voir, etc. » Et puis le soir arrive, et puis la nuit arrive, et il n'y a rien qui s'est passé. Vous allez être déçu, vous allez être en manque, vous allez avoir un sentiment de manque. D'accord? Par contre, si je ne vous dis rien alors que j'ai prévu une surprise pour vous, et puis que finalement la surprise n'arrive pas, en vous couchant le soir, vous n'aurez pas le sentiment de manque. Donc, d'où vient le sentiment de manque? Le sentiment de manque, écoutez bien ça, le sentiment de manque vient du fait que vous aviez la connaissance de quelque chose auquel finalement vous n'avez pas eu accès. Eh bien, c'est pour ça que nous avons le sentiment de manque de mère. C'est parce que quelque part au fond de nous, nous savons ce que c'est être une bonne mère pour soi. Nous savons ce que c'est être une mère. Nous l'avons, cette connaissance innée. Tout le monde a la connaissance de ce que c'est être une mère pour quelqu'un. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que si nous avons le sentiment de manque de mère, c'est bien la preuve que nous savons exactement ce que c'est être une mère. D'accord ? Donc, si nous savons exactement ce que c'est être une mère, à partir de maintenant, nous pouvons être une mère pour nous-mêmes et nous pouvons maintenant commencer à prendre soin de nos besoins de façon inconditionnelle et de façon permanente. Et nous n'aurons plus jamais besoin que les autres prennent la responsabilité de nos besoins. Les autres interviendront encore dans la satisfaction de nos besoins, mais ce sera nous et nous seuls qui prendrons à partir de maintenant la responsabilité de nos besoins, comme une mère idéale le ferait pour nous. Quatre choses à vous dire rapidement. Première chose, merci pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Continuez comme ça, j'adore vous lire, j'adore vous répondre et vous enrichissez de cette façon la communauté apprenante de tous ceux qui fréquentent cette chaîne YouTube. Deuxième chose, vous voulez aller plus loin, vous voulez avoir d'autres réflexions complémentaires par rapport au sujet d'aujourd'hui, eh bien voici mes deux suggestions du jour. Il vous suffit de cliquer sur une des deux images pour aller plus loin dans la réflexion qui a été menée aujourd'hui. Troisième chose, si vous voulez être prévenu de chaque mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur la petite icône qui se trouve en bas à droite de l'image pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Quatrième et dernière chose, merci à tous ceux qui partagent déjà le lien des vidéos à ceux qui leur sont chers. Je pense qu'en faisant comme cela, vous faites une différence dans la vie de ceux qui vous sont chers et en leur proposant gratuitement les réflexions que je vous partage tous les vendredis matin. Alors, à très très bientôt. Merci pour votre coopération. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre engagement à grandir en conscience, en amour et en compétences.